puis on est à Benoche.
On se croit pinçon.
On se croit pinçon.
À la Benoche.
Tu as connu ça à Bordeaux?
La Benoche.
Bordeaux-Bachet, dans un quartier qui s'appelle la Benoche.
Nous sommes dans le parc Pinson, à Bordeaux-Bastide.
Eh bien, c'est un ensemble de HLM, si on peut dire. Où il y a... C'est cosmopolite. Il y a de tout.
C'est bien.
Il y a tout ce qu'il faut.
Dans une cité.
Il y a beaucoup de gens.
C'est
bizarre.
La cité Pinson.
On connaît beaucoup de gens qui sont gentils.
Quoi, non?
C'était ce qu'on appelait le pré-Pinson.
Anciennement, la cité Pinson.
Il y avait des ânes.
Il y avait des vaches.
On est donc ici à la cité de la Benauge. Donc on commence par un petit thé, très convivial, très familial.
Il y aura une soirée entre des femmes de quartier. Et qu'il y aura quelques jeunes qui vont venir.
On est obligé d'être un peu solidaires les uns les autres parce qu'il y a un peu toutes les communautés qui sont... Il y a maghrébins, il y a...
Donc voilà, je ne me sais pas présenter, excusez-moi, je m'appelle laquelle ?
Noire. Alors on est tous les uns avec les autres.
J'habite ici dans
moi,
le quartier.
Moi je suis comme ça, maintenant tout le monde n'est pas pareil.
Il y avait un bassin avec de l'eau, des petits bateaux pour les enfants venaient jouer. Il y avait des massifs magnifiques. Il n'y avait pas d'herbe partout. C'était joli. C'est passé.
Non, moi ça fait 8 mois que je vis ici. Mais ça vit bien, c'est bien.
Il n'y a que 24 ans que je suis là.
J'ai fait beaucoup d'amis ici, c'est bien.
Mais moi avec mes voisines qui sont maghrébines et tout, je m'entends très 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 bien. Alors,
À la mairie, il y a de moins en moins d'argent pour la Bastide.
Oui, puis donc, puis
mais pour Bordeaux, Bordeaux c'est...
Et il manque des choses à faire avec le centre. Il n'y a pas beaucoup de choses, des activités.
Ils faisaient des massifs, les gamins faisaient du vélo dedans, me dites pas que c'était normal. Non, c'est pas vrai.
Ça dépend des jeunes, voilà. Parce qu'en fait, il y a des jeunes qui s'entendent et il y a des jeunes qui ne s'entendent pas.
C'est calme ici, c'est calme. C'est pas comme les autres endroits là-bas. Palmer, je sais pas, des endroits. C'est bien ici, c'est bien. Sécurité, beaucoup de choses bien à faire ici.
Mais ce qui n'est pas bien, c'est que dans un quartier, comme vous le voyez, c'est... Il y a un peu de police, on respecte pas, on les traite. Parce que dans un quartier, comme vous le voyez, les jeunes, on est bien très tranquille. Et on n'aime pas la police parce que, je sais pas combien de fois ils nous ont embarqués, ils nous ont mis en garde à vue, la justice poursuivie avec les médecins et tout ça. C'est pour ça qu'on n'aime pas.
On est tous frères, il faut pas l'oublier ça quand même.
Voilà.
Ensuite, nous passerons au casting d'initiative. C'est un peu l'habitude du chantier mobile. Dylan, vous le connaissez, Dylan ?
Oui.
Ouais. Qui va venir nous présenter son projet pour... Vous voyez pas un grand, il est en sixième. Ouais, il a un super projet. Il organise ici, là, au mois de décembre, un vide-grenier, tout ça. Voilà. Donc il viendra nous en parler.
Bonjour, je m'appelle Dylan, donc je vais avoir 11 ans bientôt et j'ai un projet qui consiste à récolter des dons et ces dons à les reverser au Resto du Cœur. Et puis je compte sur plein de gens pour pouvoir mettre ce projet au point. Donc il y a le centre d'animation Bastide Benoge Il y a des amis à moi. On a mobilisé des écoles. On essaye de mobiliser tout le quartier petit à petit. Donc à partir de là, j'ai monté ma propre idée. Pourquoi on ne ferait pas un spectacle comme les Enfoirés, mais pour les plus jeunes, pour défouler le quartier, faire une grande animation, et puis tout en venant en aide. Et pour montrer aussi que les enfants peuvent être là en faisant ce qu'ils peuvent faire. Donc s'il vous reste de la nourriture comestible, veuillez l'amener à la banque alimentaire. Comme tout le monde dit, chez les Enfoirés, on compte sur vous.
Viens, Neila. Viens. Regarde.
Oui, alors je m'appelle Nathalie Victor Rétali. Je vais intervenir dans les échanges en tant que photographe, puisque je suis photographe et que j'ai photographié le squat de Rome, de l'avenue Thiers et celui de Florac. Il se trouve que dans la ville, je suis aussi élue.
Quel regard vous portez justement sur une certaine dichotomie qu'on ressent à Bordeaux entre les quartiers rive gauche, les quartiers rive droite, les quartiers bourgeois, les quartiers populaires, où c'est peut-être pas aussi binaire que ça?
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je suis élue d'opposition, hein, je suis élue communiste. Je crois que la dichotomie a été très violente à une époque entre certains quartiers, c'est-à-dire qu'on ne... Mais ça se franchissait autrement. Bon, il y a gentrification quand même dans le centre-ville, hein, parce qu'il y a vraiment, dans le centre-ville aussi, des quartiers peut-être plus difficiles même, d'une certaine façon, que les cités, quoi.
Gentrification peut-être aussi dans ces quartiers de rive droite.
Oui, il y a des parties de la rive droite qui sont déjà des bobolandes ou des semis. C'est aussi une bonne chose. On ne peut pas uniquement fustiger la gentrification. Il faut simplement maintenir un équilibre que tous aient le droit d'habiter partout. Et ça, on en est loin quand même, surtout à Bordeaux. Je fais partie du réseau Éducation sans frontières, donc je m'occupe parfois des Roms, puisqu'ils n'ont pas de papier, et des enfants en âge d'être scolarisés. Et j'ai eu l'occasion d'aller les photographier dans leur squat, où j'ai essayé de prendre les gens tels qu'ils étaient, c'est-à-dire avec leurs conditions de vie, certes, mais avec leur personne entière, avec toute la dignité qu'il faut pour sortir de ce genre de squat à peu près en état d'aller à l'école, par exemple, le matin. Mais j'ai aussi voulu montrer, par exemple, l'intérieur des cabanes qui est de Kéris. Ils arrivent toujours à trouver ce qu'il leur faut pour continuer à vivre la tête haute et correctement. Et bon, il me semble que la société ne leur apporte pas grand-chose de ce qu'il leur faudrait. Là, c'est le maire qui a fourni quelques planches pour faire des cabanes, mais enfin bon, pas d'évacuation, des fumées, pas de fenêtres, peu d'isolation de la pluie, etc. Je crains un petit peu le pire pour l'hiver. Bon, on verra, mais je trouve qu'il faudrait quand même offrir d'autres solutions. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie de se retrouver sans arrêt dans un ghetto et tout le temps stigmatisés. Ils ont, pour certains, très envie de participer aussi à la vie sociale en France. D'autres moins, c'est vrai, mais voilà, il y a un respect aussi du désir des populations à garder, qui est difficile à prendre en compte parce que cette culture n'est pas bien connue. Et parce qu'on a uniquement un modèle d'intégration, que peut-être cette intégration, elle peut se matiner aussi de connaissance de l'autre, ça serait quand même utile, même s'il ne s'agit pas évidemment de stigmatiser des groupements ethniques, bien au contraire, hein, il s'agit que ça puisse circuler justement.
Or think in the context of politics. Here, the effect of the net is perhaps now most obvious. There are tiny stories to tell. In April, Goldman Sachs announced a huge explosion in bonuses paid out to its executives, and those bonuses were reflected in banks around the world.
Et ensuite, on aura l'échange. Le nom, le titre de l'échange, ce que j'ai appelé une micropolitique des marges. L'idée, c'est de parler justement de ceux dont on ne parle pas souvent, ce que Michel Foucault appelait les hommes infâmes, les figurants, les exclus, les invisibles, les empêchés, les oubliés. François Dubé, qui est sociologue et professeur à l'université de Bordeaux 2,
En venant ici, dans ma voiture, j'écoutais la radio banale, normale, France Inter pour ne pas la nommer. Et il y avait une émission qui nous donnait des chiffres en pagaille sur les inégalités sociales et les 0,1% les plus riches et les 0,2%, etc. On sait énormément de choses. Donc je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'éclairer les consciences, c'est de savoir si on a des capacités politiques collectives. Je crois que c'est ça. C'est est-ce qu'on a les capacités de s'organiser mieux, de fabriquer une école qui marche ? Est-ce qu'on a la capacité de faire des villes vivables ? Je crois qu'il est là le problème. En tout cas, l'idée un peu foucauldienne de dire il y a un monde que l'on ignore, que l'on cache, que l'on enferme, que l'on ne voit pas, je crois que ça n'est plus tellement vrai. D'ailleurs, il y a une exposition qui montre les robes. En même temps qu'on les exclut, on les voit.
Marfal, et qui est sociologue, écrivain, artiste.
Voilà une société qui est une société paradoxale, qui ne dit pas ce qu'elle est. On ne parle pas de racisme, on ne parle pas de discrimination. On dit que le modèle d'intégration, malgré tout, ça marche. Non, ça ne marche pas. Heureusement que ça ne marche pas, parce que ça veut dire que c'est une société qui a changé fondamentalement et qu'elle se tente de se structurer sur d'autres axes, notamment sur la question de la ressemblance, la trop grande ressemblance de ce qu'on appelle les immigrés avec les Français de souche. Pour moi, c'est vraiment le curseur.
Georges Viala, président de la Banque alimentaire du département.
Cette histoire, ce chiffre là que vous avez sorti, qui est le seuil de pauvreté aujourd'hui, qui est à 950 euros en France, et globalement à peu près, c'est un chiffre qui est partagé en Europe. Il faut avoir conscience exactement de ce que ça représente. Il faut savoir que là-dessus, il y a un phénomène qui s'est développé, ce sont les dépenses contraintes. Les populations les plus défavorisées aujourd'hui ont 75% de dépenses contraintes, c'est-à-dire de logement, d'assurance, donc une famille monoparentale qui se retrouve à 1000 euros par mois. Elle a déjà 750 euros qui passent dans des dépenses dites contraintes. Il reste 25%. Il y a 17% pour l'alimentation et à peu près le reste pour la santé et 2-3% pour se distraire. Vous voyez ce que ça peut représenter, donc c'est rien. Et quand je dis 17% pour l'alimentation, ça veut dire que c'est 170 euros par mois. Ça veut dire 5 euros par jour pour nourrir sa famille.
Laura Todoran, qui est artiste, et Olivier Perroux, sociologue, donc vous faites former un couple artistique, hein, sociologie et art. Vous êtes à l'origine d'une superbe exposition qui s'appelle Pancarte.
Voilà, donc en fait, on s'aperçoit que derrière cette espèce de catégorie très floue, au contour très flou, les Roms qui iraient des Gitans d'Espagne jusqu'aux Roms de Roumanie, en fait, on a des sociétés qui sont vraiment très différentes, des groupes qui sont très différents et qui ne se reconnaissent pas comme semblables. Donc finalement, cette espèce de présentation complètement culturalisante va enfermer les Roms dans une espèce d'image qui fait qu'on va plus pouvoir communiquer, on va plus voir des situations complètement réelles, mais on va voir voilà, une espèce d'imaginaire qu'on a tous, plus ou moins différemment, mais qu'on a tous, qu'on peut plaquer facilement sur les Roms. Et l'autre point que je voulais dire sur les Roms aussi, c'est que ce qui peut perturber peut-être les travailleurs sociaux, c'est qu'en fait, par rapport à la figure de l'exclu qu'on a, une personne qui aurait coupé avec sa famille, etc., les Roms, souvent, en fait, ils sont extrêmement bien organisés socialement, c'est-à-dire qu'ils ont des fêtes de famille, ils ont leur oncle, leur tante, leurs enfants, etc. Mais certains se trouvent dans des situations de précarité. Et ça aussi, bon, c'est un peu, c'est un peu déboussolant pour les intervenants sociaux, parce que quand on leur parle de projet de vie, ben, ils disent « Non, mais moi, le projet de vie, je n'ai pas de problème, quoi. Je sais comment mon fils va se marier, comment ma sœur va venir. »
On va peut-être venir à vous, Hélène Beaupère, hein, que... présente. Vous êtes la directrice de la DAF 33.
Les gens du voyage en France, ils viennent questionner le mode de vie des sédentaires, c'est-à-dire qu'ils ont un habitat, un mode de vie différent et auquel ils sont attachés. Et c'est ça qui pose question et qui pose problème dans la rencontre avec la société qui est majoritairement sédentaire et qui vient questionner les façons, les politiques publiques aussi, leur façon de répondre aux questions d'habitat, d'insertion, de scolarisation. Et malgré tout, il y a un espace qui est de rencontre, qui peut être conflictuel, qui peut être de construction, qui peut être de rencontre, qu'il faut arriver à travailler, élaborer ensemble.
Tu voulais ajouter
Juste rapidement, en fait, sur les Roms roumains et bulgares, En fait, leur grosse difficulté pour justement qu'ils puissent s'insérer, c'est qu'ils sont dans des mesures transitoires qui font que en fait, l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et autres est extrêmement complexe. C'est-à-dire que on a un peu une injonction paradoxale où d'un côté on dit bah voilà, faut plus vivre comme au Moyen Âge, il faut que vous vous intégriez, etc. Et en même temps, ils sont confrontés à des difficultés administratives extrêmement complexes. Pour la scolarisation, en général, quand il y a des Roms-Roumains ou Bulgares, les écoles rechignent un peu à les accepter parce que les mairies se disent si on les accepte, ça veut dire qu'ils vont s'installer ici et on risque de le payer aux prochaines élections, etc. etc. Donc finalement, on leur refuse la scolarité souvent, l'accès à l'emploi, l'accès à la formation professionnelle, et ensuite on dit bah regardez, ils peuvent pas vivre comme ça au crochet de la société.
Patrice Achirou, vous venez d'écrire un ouvrage qui s'appelle Le dernier des SDF.
C'est vrai, j'ai eu le malheur ou la chance à hiver 94-95 d'être présent autour de cette mobilisation là d'un groupe de sans domicile fixe, un groupe de 5 personnes. Donc un groupe de sans domicile fixe réclamait à Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, et à l'État un lieu, un toit, un logement. Ma priorité étant étudiant en médecine était de pouvoir les accompagner autour des problématiques de santé réelles, avec surtout une volonté de pouvoir travailler autrement. Ces SDF-là, qui à minima étaient réinsérés et voyaient un peu plus clair que les autres, voulaient épauler ceux-là même qui étaient vraiment dans la misère, quoi, qui étaient plus miséreux qu'eux. Donc de squat en perquisition, en réquisition, hein, le 56 place des Capucins s'est ouvert. Donc 15 années après, c'est vrai qu'à travers le dernier des SDF, j'ai voulu m'interroger un peu sur la pratique sociale. Je suis en train de dire que le travail social, est-ce qu'il sert ? Je m'interroge si le travail social sert réellement à insérer le désocialisé. À partir de là, c'est qui le désocialisé ? D'où mon idée, hein, de bâtir un peu un nouvel ordre social en interrogeant aussi les politiques. Un petit clin d'œil aussi aux politiques qui, bientôt, les campagnes vont commencer, vont nous faire la promesse, hein, du plus personne n'habitera le trottoir, et plus personne dehors. Donc voilà un peu le parcours, hein, du dernier des SDF.
Une réaction par rapport au témoignage. Au passage, je signale que quand même l'espérance de vie des SDF est de 47 ans. 47 ans ?
Oui, environ 45 ans en Gironde.
C'est ça. C'est-à-dire à peu près 35 ans de moins que les...
Un peu l'espérance de vie à Bamako.
Oui, à peu près l'espérance de vie à Bamako. Voilà.
Mehdi Azghi, qui est sociologue. Mais j'aimerais juste décliner quelques distances possibles sur la question des travailleurs pauvres. D'abord, donc une distance économique. On voit là depuis maintenant 10 ans qu'on parle d'exclusion, même pour des travailleurs. Donc c'est d'abord cette distance économique. Elle est aussi urbaine et architecturale. On se retrouve donc loin de la ville, a priori, même si des transports permettent de la relier. On se retrouve dans des sites qui sont lourds physiquement, même si certains changent, certains sont réhabilités, certains sont démolis. Mais quand même, on reste dans des situations architecturales et paysagères qui ne sont pas forcément favorables, qui ne donnent pas envie forcément d'y rester et sortir dans l'espace, même si ici on est dans un joli espace. On est aussi, d'après moi, dans une distance qui est culturelle et citoyenne, dans le sens où la plupart des habitants, et donc qui peuvent être les travailleurs pauvres et pourquoi pas leurs enfants, ont le sentiment d'exclusion et d'être à distance des codes citoyens et culturels. Et une autre des exclusions, c'est la question de l'exclusion politique. Finalement, on se sent à distance aussi de ce système et de ces représentations politiques qui ne nous parlent plus et qui ne nous représentent même plus. Une des dernières questions que je voulais aborder, c'est la question de la situation, en tout cas des institutions qui ne savent pas tellement quoi faire vis-à-vis de ces travailleurs pauvres et qui, justement, sont travailleurs pauvres. Alors après tout, on peut penser qu'ils ont pas spécialement besoin d'aide sociale, et pourtant ils ont une nécessité. Et c'est les travailleurs pauvres et tous ceux qui se retrouvent pas très loin de ce seuil de pauvreté, finalement, qui ne veut pas dire grand-chose quand on est en situation précaire. Je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose ? Il y a peut-être des questions parmi vous ?
Je voulais dire qu'il y a 7% sur 10 politiciens qui croient que l'islam, les musulmans, les bulgares, les gitans sont les problèmes de la France. Donc je voulais protester contre ça ce soir, parce que les Français ont aussi mis en problème la France.
Suzanne Oski, qui vient faire son retour d'exploration.
Indépendamment des genres, pour les personnes qui est pour moi liée à l'histoire de chacun, excusez-moi, la façon dont chacun va appréhender sa vie, va comprendre ses événements, tel événement migratoire, et avec les objectifs de chacun.
Alors, moi, je voulais m'aller un peu vers la France, m'approcher de la France. Parce que tout le monde partait déjà vers la France. Hein. Il dit non, ne t'inquiète pas de ça, je m'en occupe pas. Alors évidemment, ils ont employé là-dedans. Oui, c'était très bien et tout le monde était très content de moi parce que j'étais le seul qui parlait français. Alors, il arrive qu'un soir, le commandant, il me dit, j'ai quelque chose à t'annoncer qui reste entre nous deux. La guerre est perdue.
C'est comme ça, ça contamine. Ça va tout le monde, ça prend tout le monde à la gorge, quoi. Le dernier bateau qui a quitté avec des jeunes chez moi, de mon village même, il y a 4 jeunes qui sont morts là-dedans. 4 jeunes. Ils avaient tous entre 22 et 27 ans. Tous. Pratiquement de la même famille. Le bateau, il a coulé d'un coup, plof. On ne les a jamais retrouvés.
On va diffuser des images de l'atelier et du bras zéro, de l'atelier d'urbanisme utopique qui a eu lieu ici avec Bruit du Frigo.
Qui rassemble des architectes, des urbanistes, des artistes. On se consacre avec une démarche, je dirais, contextuelle, artistique et participative au territoire habité et aux manières d'intervenir avec ce territoire habité. Donc ça veut dire, je ne sais pas si c'est simplement, mais qu'on essaye d'imaginer des manières alternatives de fabriquer et de transformer notre cadre de vie. En tout cas, on commence par une immersion concrète dans le réel, et vous allez voir tout à l'heure avec des photos, et une attention toute particulière aux pratiques quotidiennes. Ça veut dire qu'on n'arrive pas comme des étrangers dans des lieux, on n'arrive pas comme des satellites, mais on a l'écoute des gens et de ce qu'ils font leur vie, et on essaye d'imaginer des situations ou des actions qui rentrent en conversation avec les lieux. Quand le bras zéro arrive ici, les gens ils sont surpris, ils se demandent ce que ça fait, et puis rien que dans la surprise, ils viennent autour de nous, et du coup on arrive à enclencher une conversation. Je rajouterais que dans cette histoire de quotidien, nos actions, elles sont de l'ordre du parasite, du détour, du chemin de traverse. On est proche de la dérive, de la déambulation. Et je dirais, pour finir dans ces notions, qu'on investit le temporaire. Ce qu'on pense dans le temporaire, c'est aussi que c'est une manière d'infiltration d'un urbanisme plus traditionnel. Très clairement, c'est une stratégie. Le temporaire, c'est aussi une manière de se donner la possibilité de se projeter. Et de ne pas se mettre de limites. Le temporaire, c'est aussi l'espace d'investir des projets urbains où il y a des temps de latence terribles à vivre et à subir. Vous avez tous entendu des espaces en friche. Ben, nous, on investit ces temps de temporaire, ces moments qui sont de 2-3 mois et qui nous permettent d'imaginer des choses et aussi avec les gens. Je finirai parce que je n'ai pas envie de barber trop les gens qui sont ici et qui vivent ici. Mais je rajouterai quelque chose du politique. Et à l'endroit du politique, je crois qu'on se situe à côté de plein de courants et qui sont beaucoup, je pense, ont eu des espaces de parole dans Evento, en tout cas dans le chantier mobile. Mais des gens qui croient en la redistribution des pouvoirs et des rôles entre une maîtrise d'usage, une maîtrise d'œuvre et une maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire qu'on croit à un urbanisme qui peut être complémentaire à un urbanisme qu'on dit traditionnel, fait pour durer. Un urbanisme plus flexible, un urbanisme plus souple. Un urbanisme qui est capable de s'adapter à nos manières d'évoluer dans nos manières d'habiter et simplement à nos désirs d'espace. Un urbanisme qui va partir en défricheur de possibles. Un urbanisme qui est aussi capable d'inventer des choses et qui tout simplement lutte contre l'appauvrissement de l'espace public qu'on subit tous, contre la fadeur et contre l'ennui qui en découle. On fait partie de ces gens qui croient qu'on peut fabriquer la ville autrement.
Where Sarkozy decided he wanted to know what the future of the internet would be. And he engaged in that activity with the same corrupted frame that we understand in the United States again and again. He gathered the richest, most powerful companies from the internet together in Paris and said to them, what's the future going to be? Not even recognizing the future was not there in Paris. The present was there. And what the richest of the present do is they protect themselves against the future. To protect the future, Sarkozy, you need to protect what Tocqueville taught us. You need to protect the equality that produces the sense of entitlement and insight and freedom that the internet has given us. And to resolve the inevitable policy problems, we have to churn those problems through democracies that are not corrupt. Help us. Teach us. Shame us to become something more. But until we do, protect yourself from us.